Armand Sylvestre, Contes irrévérencieux, phonographe. En son sordide cabinet dont les araignées avaient tapissé les angles et dont les rats avaient troué les murs, près de sa table où fumait, et parmi les bouquins où s'enseigne l'économie, un plat encore tiède des haricots blancs qui constituait son unique nourriture, ses longs doigts ramenés sur ses yeux et la paume de la main posée sur son décrochu, le vieux milliardaire Peter Peterson s'abîmait à la clarté fumeuse d'une lampe en une indicible mélancolie. Un des plus riches des États-Unis et certainement le plus avare des deux mondes, il avait conquis en 27 faillites, dont 15 pouvaient sans exagération être qualifiées de frauduleuses, une immense fortune dont il ne jouissait en rien, mais qui lui était néanmoins tout à fait désagréable de quitter en même temps que ce monde. N'ayant pas d'enfants, c'était à des enfants de collatéraux, dissimulant mal leur impatience d'hériter, que s'en irait cet immense bien. Il n'avait d'ailleurs aucune illusion sur les sentiments affectueux du ménage Humphrey, ni du ménage Houston, ni du célibataire Crockwitz qui composait cette descendance. Lui-même les haïssait cordialement, renonçant uniquement à les frustrer parce qu'il lui répugnait davantage encore de faire une bonne action en laissant son argent aux pauvres. Son unique préoccupation était donc de leur rendre l'héritage désagréable par 1000 taquineries posthumes auxquelles se complaisait son invention naturelle. Il voulait avant tout leur éviter la joie de tripoter dans ses affaires en mettant son testament à l'abri de toutes leurs atteintes, et son vœu le plus cher était d'ajourner leur félicité par quelque volonté d'outre-tombe qu'il leur fût impossible d'enfreindre. Mais en quel homme aurait-il eu assez de confiance, homme public ou ami sûr, pour lui donner en garde le précieux dépôt? Le ménage Humphrey ou le ménage Houston ou le célibataire Crockwitz auraient bientôt fait de le corrompre. On juge volontiers les autres par soi-même, et Peter Peterson, qui avait assez vécu pour s'estimer à sa propre valeur, possédait les meilleures raisons du monde d'avoir une fichue opinion de l'humanité. Tout à coup, il se frappa le front, ce qui fit un bruit de castagnette. Il avait trouvé. Et un rire énorme grimaça sur ses gencives édentées, cependant que sa petite barbiche grise, en queue de moineau, dansait sur son menton décharné. Et le lendemain matin, lui qui n'avait jamais fait de folie, il s'en fut acheter un phonographe Edison chez le meilleur fabricant de New York et le fit transporter dans son sordide cabinet dont les araignées avaient tapissé les angles et dont les rats avaient troué les murs. Fort instruit de toutes les choses pratiques, son mépris des poètes et de la rêverie lui en avait fourni le moyen, Peter Peterson connaissait à merveille ce stupéfiant instrument qui emmagasine la parole humaine et la restitue au commandement, en lui donnant seulement le petit accent des personnes enrhumées, ce qui ferait supposer qu'un des inconvénients de la mort, entre autres, est un perpétuel coryza. Aussi j'en sais qui mettent une coquetterie à ne rien confier de leur voix harmonieuse à cet appareil en rumeur, n'est-ce pas, mon cher Paul Aren, toi qui n'as jamais voulu figurer dans le musée de causeur à voix de polichinelle de notre bon ami Mariani. Mais Peter Peterson n'avait pas de ces délicatesses latines. Après s'être assuré que son phonographe fonctionnait comme il convient, il convoqua et réunit dans la pièce voisine de son cabinet, laquelle lui servait de salon ô combien indigemment meublé, le ménage Humphrey, le ménage Houston et le célibataire Crockwitz, plus le solliciteur Harris et un greffier porteur de scellés. Après quoi, il leur tint ce langage que je traduis fidèlement de l'anglais, dont je ne sais pas un mot. « Estimés parents, gracieux solliciteurs et vous, ineffable greffier, Je sens que mon compte de jours mortels va être liquidé d'ici peu, et je me décide à mettre mes livres en règle avant de quitter ce comptoir de larmes, en exprimant d'une façon indestructible mes dernières volontés. Ce n'est à aucun de vous, malgré le grand cas que je fais de votre honnêteté, que j'entends les confier. Vous allez demeurer ici, sans vous dire autant que possible des choses désagréables, et sans vous disputer par avance mon bien, pendant que, dans mon cabinet à côté, je vais épancher ces confidences suprêmes dans l'oreille de cuivre d'un phonographe que j'ai acheté à cette intention et qui les inscrira rigoureusement sous ma dictée, vous réservant le plaisir, mais un an seulement, entendez-vous, après mon trépas définitif, d'entendre ces doux aveux de ma propre voix, ce qui vous donnera l'exquise illusion que je vis encore. C'est une attention gentille, n'est-ce pas ? Le ménage Humphrey et le ménage Weston et le célibataire Crockwess firent différentes grimaces imparfaitement approbatives, cependant que le solliciteur Harris et le greffier Cacatoès applaudissaient franchement à l'originalité de l'idée. Puis, Peter Peterson sortit, referma avec soin la porte massive, laissa retomber une lourde couverture qui servait de portière et ne laissait filtrer aucun son entre les deux pièces. Ensuite, se penchant vers la gueule de tromblon par où se versent les paroles dans l'enregistreur harmonieux, il commença d'y prononcer ses volontés dernières dont il avait médité la formule définitive depuis longtemps, accumulant toutes les formalités insupportables qui en pouvaient retarder l'effet, entassant les motifs de procès ultérieurs entre le ménage Humphrey et le ménage Weston et le célibataire Crockwess, superposant les obstacles juridiques aux considérations blessantes pour chacun des cohéritiers, œuvre patiente d'un homme de bien qui serait charmé qu'on échangeât des calottes en famille après son trépas. Et quand il eut terminé, par une ironique prière au Dieu de toute justice et de toute bonté, en bon protestant qu'il était, il souleva la lourde couverture, rouvrit la porte massive et dit, gracieusement à ses hôtes, enfermés jusque-là dans le salon, « Entrez !» Quand le ménage Humphrey, le ménage Weston, le célibataire Crockwess, légèrement émus et impatients, se furent assis, comme ils avaient pu dans les coins, effrayant fort du bruit de leurs pas, les pauvres rats qui avaient coutume de se promener tranquillement dans le cabinet, et accrochant à leurs cheveux les menus dentelles tissés par les araignées, au solliciteur Harris et au greffier porteur de sceaux, Cacatoès, demeuré debout, comme il convient à des serviteurs officiels de la loi. Peter Peterson leur tint ce langage. Monsieur le greffier, en présence de mes parents bien-aimés, et dont je ne soupçonne pas un seul instant la délicatesse, vous allez, s'il vous plaît, apposer vos sceaux sur ce parchemin dont je vais fermer hermétiquement l'oreille de cuivre de ce phonographe, de façon que, sans les briser, personne n'y puisse plus faire parvenir aucun son. Et vous, monsieur le solliciteur, vous allez dresser de tout cela un acte authentique que mes adorés congénères se feront un vrai plaisir de signer. Après quoi, je déposerai ce phonographe dans cette armoire, que je fermerai de deux rubans solides maintenus également par les cachets légaux que vous voudrez bien apposer vous-même encore, monsieur le greffier, vous rappelant que vous encourriez la peine d'être pendu si vous commettiez la moindre irrégularité volontaire dans cette délicate opération. Enfin, il demeure convenu, chère postérité de mes frères et de mes sœurs, et messieurs les hommes publics, que dans un an seulement, jour pour jour, après celui où vous aurez le regret de me perdre, l'armoire sera ouverte, le phonographe délivré de son obturateur, et mes volontés révélées, ce à quoi vous allez vous engager sur l'honneur et par écrit, au bas de l'acte précité. J'ai dit. Et le ménage Humphrey, le ménage Weston, le célibataire Crockett, le greffier Cacatoès et le solliciteur Harris se retirèrent simplement quand tout le rite était fait, comme Peter Peterson venait de le prescrire, le phonographe obturé et enfermé dans une armoire scellée au sceau de l'État. Peter Peterson avait eu raison de prendre ses précautions. 8 jours après, il exhalait son âme coquette vers l'éternité, et sa famille mettait autant d'empressement à lui fermer les yeux qu'un bon calfat à boucher les trous par où une barque fait tôt. Il avait demandé un enterrement très simple, mais il trouvait moyen de le faire plus simple encore, si bien que tous les pauvres du quartier suivirent son convoi par commisération, pensant que ce fut celui d'un plus pauvre qu'eux encore, cependant que quelques optimistes enragés murmuraient « Voyez, on disait Peter Peterson avare, et certainement, il faisait en cachette beaucoup de bien que tant de misérables assistent à ses funérailles. Ah, les bourriques !» L'an d'épreuve pour les héritiers de Peter Peterson est révolu. Le ménage Humphrey, le ménage Weston et le célibataire Crockett sont fidèles au rendez-vous. Le solliciteur Harris tient l'acte roulé dans sa main et le greffier Cacatoès délie les sceaux d'abord de l'armoire puis du phonographe délivré. De ses mains expertes, il brise les cachets et enlève les rubans de toile solide. L'attention est à son comble. Une petite manœuvre du solliciteur, puis le phonographe va parler. Au milieu d'un silence, où l'on eût entendu un ciron se gratter, le solliciteur Harris fit la petite manœuvre. Un frôlement d'air prémonitoire annonça la venue de l'oracle. « Peter Peterson va parler. » Il parle. Et voilà ce qu'il dit. Prout, 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 mot impossible à entendre, hachés qu'ils sont par une poignée de prout. Prout, 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 nouveaux mots également scandés de prout qui les rendent insaisissables. Prout, 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 et ce fut tout, après avoir duré longtemps. Canaille! « Sale fumiste !» hurlèrent à la fois le ménage Humphrey, le ménage Houston et le célibataire Crockett. « C'est tout de même stupéfiant !» fit le solliciteur Harris, pendant que le greffier Cacatoès crevait de rire dans son mouchoir. Machinalement, il souleva le phonographe, regarda dans l'oreille de cuivre, pencha l'instrument et vit, avec stupéfaction, tomber du tromblon confidentiel le squelette d'un rat. Un moment de réflexion et la scène fut reconstituée. Au moment où le brouhaha des parents dans la pièce voisine, le jour du testament, avait effrayé les rats familiers qui grouillaient d'ordinaire dans le cabinet de l'avare, un de ces malheureux animaux s'était caché dans le tromblon et n'avait plus osé en sortir. Gonflé qu'il était de haricots, nourriture ordinaire et frugale de Peter Peterson, que ses invités étranges partageaient avec lui, ce prisonnier avait mêlé ses soupirs de soulagement naturel aux paroles du testataire en scandant de sa détestable musique les moindres syllabes. Après quoi il avait été enfermé sous les scellés et était mort lamentablement de faim, 2 fois captif, dans l'instrument et dans l'armoire. Le testament fut déclaré nul. La succession de Peter Peterson s'en fut à l'état. Le ménage Humphrey, le ménage Weston et le célibataire Crockett n'en échangèrent pas moins des calottes, en s'accusant mutuellement d'avoir causé le désastre en faisant trop de bruit. Ainsi, le dernier rêve de Peter Peterson fut accompli.